Salut Daniel, Louis à l'appareil, ex-docker, victime de l'amiante, l'un des six grévistes de la faim. Après 24 jours de jeûne, on a signé un accord. L'État n'est toujours pas foutu d'imposer l'application de ses propres lois, mais une avancée significative nous a permis d'arrêter notre mouvement. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à faire reculer la justice, toutes les structures de la CGT, Union locale, Union départementale, la Fédération nationale des ports et docks et la Confédération, les unions locales CFDT, FO, CFTC, FSU et le syndicat Sud, les 173 élus de tous bords qui ont signé la pétition, les associations de défense des victimes de l'amiante, l'ODEVA et l'ARDEVA, les médias et les milliers d'anonymes qui ont préfait des causes pour nous, empoisonnés, licenciés et spoliés par le patronat portuaire. Bon courage et merci Daniel.
Allô, Daniel Mermet et toute l'équipe. Alors, j'ai écouté le ministre de l'Intérieur, président de l'UMP, hier, une mémé, dans son émission participative, lui demandait ce qu'elle allait pouvoir faire avec sa maigre retraite. Et lui, là, il s'est lâché. Il a commis un petit lapsus. Au lieu de dire « il faut dégager des recettes », il a bien dit « il faut dégager des retraites ». Alors, les retraités, préparez-vous à dégager, parce que là, maintenant, ça suffit, vous allez ruiner l'État. C'était vraiment extraordinaire. Le direct, le lapsus, il faut dégager les retraites. À la place de, il faut dégager les recettes. Magnifique, Sarko. Tu t'es pas bien manqué, mais là, tu as dit le fond de ta pensée pour une fois. Ciao.
Oui, bonjour, Véronique de Paris. C'est la première fois que je laisse un message. En fait, dimanche, je me baladais, enfin, baladais. J'étais vers le canal, en fait. Et avec une amie, on est tombé, en fait, il y a quatre personnes qui font la grève de la faim. C'est leur 31e jour, aujourd'hui sûrement leur 32e jour. Et ça nous a beaucoup touchés. Ils réclament des papiers. Ça fait plus de 7-8 ans qu'ils sont en France, ils ont toujours pas de papiers. Et donc voilà, ils sont prêts à mourir pour des papiers. Ça nous a beaucoup touchés. Il y a un petit rassemblement qui a eu lieu vers 18h, on était qu'une trentaine, en fait. Et bon, il y avait une députée vert d'une circonscription de Paris qui était présente. J'espère que ça va bouger. Je voulais simplement témoigner. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Bonjour, ici Thomas de Bordeaux. Moi, je suis en train de regarder Sarkozy sur TF1, qui répond à 100 Français. Alors, comme il a déjà répondu à une dame qui venait des dom-tom, à un viticulteur, à un divorcé, j'ai un problème avec le syndic de mon immeuble. Alors, s'il pouvait faire quelque chose aussi, ce serait pas mal. Et puis, tant que j'y suis, je cherche aussi un bon électricien. Voilà, donc s'il a quelque chose à me proposer aussi, ce serait pas mal, parce qu'il a l'air de s'occuper de tout le monde. Au revoir.
Je voudrais recommander à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis le petit livre de Pierre Bourdieu sur la télévision dans la collection Raison d'agir. Ils comprendront très facilement dans quel panier de crabes médiatiques nous mijotons. Bon courage.
Bonjour, Pierre Viromnik à Brissac dans l'Hérault. J'appelle de temps en temps, je suis un ancien conseiller de l'agence Pôle emploi, notamment à Montpellier et au Vigan dans le Gard. Oui, je vous appelle surtout pour quelque chose qui me semble quand même important. C'est que parfois je rencontre des gens qui travaillent à la NPE, des conseillers, et qui ont travaillé dans l'ancienne méthode, c'est-à-dire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et ils se sentent complètement désinvestis de leur mission, en ce sens que, comme on le dit bien sûr, ils doivent recevoir les gens d'une façon régulière pour souvent n'avoir rien à leur proposer. Et deuxièmement, avec derrière la pression qui leur demande de radier ou de se séparer de demandeurs d'emploi qui ne seraient pas tout à fait dans les normes. Donc ils ont perdu un petit peu ce qui faisait la beauté de ce métier. Notamment lorsque, avec des amis, nous faisions ce qu'on appelle des cercles de recherche d'emploi ou des techniques de recherche d'emploi où on habituait les gens à prendre en charge eux-mêmes leur démarche. Et là, de plus en plus, ils se sentent complètement désinvestis parce que ils n'ont plus du tout les mêmes objectifs. Et bien sûr, l'objectif en sous-main, c'est bien sûr essayer de radier au maximum de manière à ce que les listes de demandeurs d'emploi s'appauvrissent pour que ceux qui, bien sûr, en ont besoin, puissent se présenter dans des élections. Moi, je le ressens comme ça.
Merci pour tous ces messages très perspicaces que j'écoute ici à Pékin, puisqu'on est arrivé à Pékin, et on est en reportage donc pour plusieurs jours, mais continuez de nous adresser des messages, c'est-à-dire des nouvelles du front. J'écoute soigneusement tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Just in Time. Just in Time, vous allez voir, vous allez redécouvrir cette émission qu'on a revue et corrigée avec Yann Chouquet, qui n'est pas sans écho avec ce qui se passe ici en Chine, évidemment à l'échelle française. Pour donner une toute petite idée de la démesure de la Chine, pour les Chinois, il n'y a pas de démesure, c'est pour nous les petits Français qu'il y a des mesures. D'ailleurs, on est toujours en train de mesurer notre audience, celui qui a la plus grosse, celui qui a la plus petite en matière d'audience. Et ici, eh bien, les Chinois sont en train de préparer le nouvel an chinois. C'est le 17, c'est le 17 février, c'est le nouvel an chinois. Eh bien, ce soir-là, tous les Chinois seront devant la télé. Tous les Chinois seront devant la télé, CCTV1, et ils regarderont une émission qui correspond à peu près à notre Drucker national, sauf que, eh ben oui, ils sont 1,3 milliard et quelques, les Chinois, et donc ce soir-là, ce gars-là, et le spectacle qu'il va présenter sera vu par 800 millions, peut-être 1 milliard de téléspectateurs. Donc de quoi devenir très très modeste, même si on est producteur délégué d'une émission modeste et géniale comme là-bas si j'y suis. Voilà, donc Just in Time. Et puis encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Une autre petite nouvelle, je peux vous dire que Pinpin, notre ami Pinpin, se tricote un petit pullover bleu torsadé très très joli qu'elle portera bientôt au printemps.
Je suis dans la région rouennaise, je suis un éduc spécialisé en formation, donc embauché par la fonction publique et en contrat illégaux depuis 3 ans et demi maintenant, puisque je signe CDD sur CDD. Et ma femme, elle aussi, n'est pas dans la fonction publique, mais vit aussi de CDD en CDD, pareil dans le travail social. Et effectivement, ces pratiques concernant le fait de virer des gens de la NPE, en vérité, c'est pas nouveau. Moi, je connais quelqu'un qui a été longtemps responsable d'agence NPE et qui a été viré tout simplement parce que elle s'occupait trop de retrouver du taf aux gens plutôt que de s'occuper de trouver des prétextes pour les jeter de la NPE. Voilà, donc ça fait bien longtemps que ça existe. Mais il y a un nouveau truc qui existe en France depuis pas longtemps. Là, par contre, et qui est à l'essai dans plusieurs départements français, c'est une boîte privée qui est chargée de retrouver du boulot aux gens. Cette boîte, elle s'appelle Ingeus. Alors, c'est inspiré, je crois, des pays... je crois que ça vient d'Australie, ce truc-là. Et donc, ces gens-là sont payés par les indemnités acidiques. Voilà, donc ma femme, on lui a imposé ce suivi par une boîte privée. Suivi qui lui a servi d'ailleurs strictement à rien puisqu'elle a retrouvé du taf toute seule, voilà. Par contre là, elle est retournée dans une période de chômage et on lui a appris début janvier que vu qu'elle avait bénéficié d'une prestation par une boîte privée rémunérée par les acidiques, ça lui était retiré d'autant plus de sa période d'indemnisation, voilà.
Rafle non féminin, fin du 16e. Jeu de dés où, d'un seul coup, on peut enlever toutes les mises. 14e. Racloir, 13e. De l'allemand Raphaël de Raffen, emporté vivement. 1. Vieilli. Action de piller, de rafler. Mariette s'était jetée sur le marché pour y faire une rafle. Balzac. 2. Moderne. 1867. Arrestation massive opérée à l'improviste par la police dans un quartier ou un établissement suspect, voire descente de police, filet, coup d'œil. En un clin d'œil, il y eut une trentaine de personnes rassemblées entre deux barrages d'agents. La rafle. Aragon.
Eh ben oui, on est le 6 aujourd'hui.
Eh ben le 6 à 6 heures du soir, c'est toujours le café repère des amis de la Bastille-Jésuite de Metz. Eh oui, c'est au café de la Renaissance. Alors, ben il est encore temps d'y courir, là, hein. T'entends cette émission, t'as encore quelques temps, c'est au centre-ville de Metz. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la clope. Eh ben oui, c'est un sujet assez brûlant, hein. Donc, que tu sois fumeur, non-fumeur, ben, tu pourras t'exprimer un peu sur ce sujet. Voilà, on t'y attend. Eh ben, peut-être un peu moins nombreux que la dernière fois, parce que presque 50 AMG pour écouter le débat sur Metz, c'est-elle une monarchie, avec nos 35 ans de pouvoir de notre maire Jean-Marie Roche. C'est vrai qu'il y avait du monde pour écouter ça, sans les clients d'ailleurs du café. Allez, ça commence à inquiéter un petit peu les renseignements généraux d'ailleurs, tout ça. Eh ben, allez, on t'y attend, et ciao, à bientôt. Merci à toute l'équipe.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base j'y suis avec François Ruffin, beau comme un camion.
Flight number 2, arriving from
Newton. On se trouve sur le terre-plein qui monte vers le Mont Blanc, un camion qui approche. Un camion italien est bloqué devant la route qui monte au Mont Blanc. Là, il y a une cohue entre les gendarmes et les manifestants. Il y a le camion qui avance, qui essaye de passer de force. Et parmi les personnes devant le camion, il y en a qui portent des combinaisons blanches et d'autres qui portent des écharpes. Des écharpes tricolores de mer. Les gendarmes font signe au camion d'arrêter son moteur.
On ne bouge pas, ils ne comprennent rien alors que le monde bouge, tout va vite, tout n'est que flux et voilà que eux ne veulent pas bouger, ils ne veulent plus bouger. Qui sont-ils? Où sommes-nous? Eh bien, on est, vous avez compris, dans une manif au niveau du tunnel du Mont-Blanc. Et pourquoi donc? Eh bien, suite à l'accident de Fréjus, du tunnel du Fréjus, le 4 mai 2005, deux morts dans le tunnel à la suite d'un accident entre poids lourds provoquant l'embrasement d'un camion de pneumatique. Alors aussitôt, évidemment, on a pensé aux 39 morts du tunnel du Mont-Blanc du 24 mars 1999 et aussitôt, tout le monde unanimement a parlé de questions de sécurité, d'insuffisance de secours. On a déploré, on a promis d'enquêter, on a fermé le tunnel et tout ça eh ben, serait après tout une affaire technique, une affaire de dysfonctionnement, et évidemment, ça n'est pas ça seulement. Dans l'Europe des 25, entre 1990 et 2002, l'augmentation du trafic routier a été supérieure à 20% pour les voyageurs et à 30% pour les marchandises, soit plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre dues au transport dans ces pays. Peut-on continuer indéfiniment comme ça? Oui, on peut pas faire autrement, disent certains. Oui, il faut absolument faire autrement, disent les autres, et ces autres ont des solutions. Par exemple, le transport par voie ferrée ou par voie maritime ou par les canaux. Évidemment que cette affaire du Fréjus comme du Mont-Blanc est une affaire essentiellement politique et de politique, et il se pourrait bien que tout cela soit lié au mécanisme de la mondialisation libérale. Il faut pouvoir acheminer au plus bas prix possible vers les zones de consommation les produits fabriqués dans les pays qui pratiquent le moins-disant social, le moins-disant fiscal et environnemental, afin que le profit des entreprises de ces pays ne se perde pas, c'est le cas de le dire, en route, comme disait Jerry Mander, un chercheur qui est allé au-devant des idées que vous pouvez déjà avoir sur la question, à savoir qu'il faut évidemment réglementer et faire pression sur les entreprises. Eh bien, Jerry Mander disait enjoindre aux entreprises de se conduire mieux en ne donnant pas la priorité au profit et à la croissance, ou en agissant avant tout dans l'intérêt des communautés locales, dans l'intérêt de l'environnement ou dans l'intérêt des travailleurs. Tout cela revient à demander à une armée de déposer les armes.
On ne bouge pas, 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 on ne bouge pas.
Specialze meria detersivo, atmosfere spray, camion cascario, merda e visi, altro che blue sky. Container anonimia, giro il mondo, senza passaporto, perché assa che i pipu tenta, riesco a vendere coi e scarta.
Ben ojo le basura, ben se pele con le binane. Ngamu wa miye kale meleto, nungulu bangkong si wong nese. Itoga teke manjongo mankoyo, mata sambalo wo awo. Ilong injele mambene mana, lave ba civilize o.
Basura, prele pasa kachira.
Quand on discute des transports, on a le sentiment que c'est presque la clé de voûte de la mondialisation.
Alors, clé de voûte, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, les transports sont vraiment au centre de la mondialisation. C'est-à-dire que les délocalisations d'entreprises, la recherche des plus bas coûts de main-d'œuvre, des plus bas coûts de protection de l'environnement dans tous les pays du monde, ne peut avoir lieu que parce que il existe une offre de transport surabondante et une offre de transport peu chère.
Voilà, il s'appelle Philippe Mühlstein, on va le retrouver, Philippe Mühlstein, qui est ingénieur et chercheur et qui étudie depuis pas mal d'années ces questions de transport. Encore une fois, ça a l'air d'être, oh là là, des machins techniques, des trucs bien compliqués, etc. Et ben non, pas du tout. Tout cela façonne notre environnement. Une banalité, surtout pour ceux avec qui nous sommes, avec François Ruffin, à Chamonix, au pied du Mont Blanc, où on manifeste évidemment une fois de plus, on manifeste depuis des années et des années contre l'augmentation considérable du transport par route, par camion, qui empoisonne, qui défigure, qui détruit complètement non seulement le paysage dans cette région dans ces régions de Savoie, mais aussi bien l'environnement et par voie de conséquence toute une culture. Alors tout ça c'est très beau, c'est très écolo, c'est très petits oiseaux, c'est très vert gentillet. On va voir que c'est évidemment, ça se limite pas à ça. On rencontre tout de suite Christine Mattel qui est dans cette manif toute vêtue de blanc.
Vous êtes assise devant le camion dans une combinaison blanche, c'est l'armée de libération du Mont Blanc.
Non, ça a été un signe de ralliement. Ce qui est vraiment super, c'est que les autres associations dans les autres vallées de montagne, dans les Alpes, dans les Vosges, dans les Pyrénées, ont repris la même combinaison. On avait vraiment cru pendant toute la lutte qu'on avait menée qu'on arriverait à ce que les camions soient interdits dans cette vallée et de fait dans toutes les autres vallées alpines, parce que le Mont Blanc est emblématique et on savait très bien que la lutte qu'on menait ici, elle servirait à toutes les autres vallées de montagne et qu'elle allait réellement changer la politique des transports, ce qui aurait été bénéfique pour toute l'Europe.
Et finalement, la politique de transport a été changée ?
La politique des transports, pour l'instant, elle se résume à gérer les crises. C'est-à-dire que le Mont Blanc est fermé, on les envoie au Fréjus. Le Fréjus est fermé, on les envoie au Mont Blanc. Et il y a toujours de plus en plus de camions.
Alors là, tout le monde se lève. J'imagine que c'est l'heure de décamper.
Bah, disons, si tout le monde se lève, je vais me lever aussi. Parce que si je reste toute seule assise devant le camion, il va me rouler dessus et j'ai envie de lutter encore longtemps.
Nos camions, très bien, mais que pensent les camionneurs eux-mêmes? Que pensent ceux qui conduisent ces camions? Avec François Ruffin, on fait 20 km en arrière, on va à l'aire de Passy, en amont, où les routiers sont bloqués et nous font part de ce qu'ils en pensent.
Je vais vous dire, moi j'ai 54 ans, je commence à en avoir ma dose. Là maintenant c'est bon, j'en suis saturé de l'Italie. De toute façon il y a trop de trafic maintenant. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'être à la retraite là. L'année prochaine si je peux j'arrête, ça ira bien comme ça. 32 ans de route c'est bon.
Vous qui êtes camionneur, vous dites qu'il y a trop de trafic maintenant?
Ah oui, il y a trop de camions. Beaucoup, il y a trop de camions sur les routes. Ça c'est évident, évident. Puis les camions ils suivent de trop près. Ça devient à la limite dangereux, hein, dangereux.
Donc vous, Patrick, qui êtes camionneur, vous seriez en faveur du ferroutage ou de ce genre de choses-là?
Moi, ça m'est complètement égal, l'année prochaine, j'arrête.
Donc vous venez pas en vacances à l'aire de Passy?
Non. Je fais mon travail, quoi. On m'a dit de passer par le Mont Blanc, c'est tout.
Et vous livrez quoi, alors?
Du cochon. Jambon, épaule, tout ce qui est en viande fraîche. On travaille pour les abattoirs du côté de chez nous et puis on livre sur l'Italie.
Et vous trouvez qu'il commence à y avoir trop de camions? Qu'est-ce que vous en pensez?
On va voir les anciens, là, il y a bien plus qu'avant.
Il me reste 2 ans à faire et vivement, je me casse. À plein le cul, on peut plus rouler. Hein. Oui, il y a beaucoup de camions, oui. Il y a beaucoup. On peut pas dire trop parce que ça serait cracher dans la soupe.
Ouais, mais on peut souhaiter autre chose quand même.
C'est mal parti, hein, autre chose, parce qu'il y a prévu plus de camions encore par la suite. Alors. C'est prévu comme ça qu'il y aura beaucoup plus de transport routier qu'avant. Quoi. Ça va augmenter, pareil. Parce que le train, le fait, le rail route, comme ils disent, c'est pas encore là d'être fait. Hein. Quand on voit, on devait prendre le train ce matin, il y a des horaires tout à respecter et tout, on peut pas, et puis...
Vous aviez prévu de prendre le train ce matin?
Non, c'était prévu. Mais comme au chargement, ça a traîné un peu, on a loupé le rendez-vous. C'est tout. Mais c'est vrai qu'en plus, la France, elle est en plein milieu. Hein. Vous voulez faire comment? Il y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, Portugal, la France, elle est en plein milieu. Là. Vous voulez faire comment? C'est l'Europe. C'est ça, c'est l'Europe.
Cette dimension marché, qui est une dimension importante, a fini par prendre toute la place dans la construction européenne, à devenir l'essentiel, et à devenir le seul motif de la poursuite de la construction européenne, et tout le reste, c'est-à-dire l'environnement, le social, l'harmonisation de la fiscalité, est passé complètement au second plan.
Oui, parce que ça avait bien commencé, plutôt cette histoire de Mont-Blanc. En 1955, la France et l'Italie décident de créer une liaison routière entre les deux pays,
pour rapprocher les deux peuples durement séparés par la Deuxième Guerre mondiale. En 1957, le Mont Blanc est choisi pour percer un tube le plus haut possible, pour faire un tunnel le plus court possible. En 59, début des travaux de construction du tunnel. Et en 1965, ouverture du tunnel du Mont Blanc, destiné avant tout à la circulation touristique et conçu pour 450 000 véhicules en 1965. Et en 1991, plus de 750 000 camions traversent la vallée chaque année. Voilà, et c'est alors qu'a été fondée l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc, ARSMB, Association Respect Site du Mont-Blanc, en 1991. Voilà un peu l'évolution des choses, et voilà le retournement des choses, et voilà comment, au fond, ça nous ramène un peu à notre polémique sur le traité constitutionnel européen, comment on est parti joyeux pour des courses lointaines entre nous, entre pays européens, fraternisant, nous rapprochant, abolissant ces foutues frontières, et quoi de plus merveilleux. Et puis, le temps passe, et le néolibéralisme avance, tel le camion, mais certains résistent. Exemple, Yvonne.
Vous avez un chapeau de paille à la main, c'est contre les insolations, j'imagine. Dans l'autre main, vous avez le masque à gaz. Les deux mains s'appuient sur une canne. Vous avez quel âge, madame? Enfin, c'est indiscret.
Non, j'aurai 84 le mois prochain. C'est pour ça que je me méfie des hommes en noir, parce que ils m'ont fêlé une côte à une manifestation.
C'est qui les hommes en noir?
Les CRS.
Donc là, vous portez de la combinaison blanche avec un camion interdit aux camions dans le dos?
Oui. Alors justement, c'est le signal qui est sur les routes, au bord des routes, pour interdire l'accès à certains camions. Mais alors, il y a des gens qui nous contestent parce que, au fond, le camion qui est là, c'est un petit camion, c'est deux essieux, Or, nous, ce n'est pas le transport commercial qui pourrait se faire entre les vallées que nous contestons, c'est le tir, c'est-à-dire le trafic international. Parce que c'est celui-là qui est absurde, le plus polluant. Un tiers des camions passent à vide. Et alors, même dans ce qui reste, il y a une quantité de choses qui sont parfaitement inutiles. Vous voyez passer tous les mercredis des camions avec des bêtes qu'on emmène là-bas en Italie. Parce que les ports qui sont nés en Hollande, ça permettra de les appeler jambon de Parme.
Au départ, c'était construit, le tunnel était construit pour rapprocher les peuples, le peuple italien et le peuple français, en tout cas les deux vallées. Donc c'était pour les peuples. Et maintenant, on a l'impression que le tunnel se fait contre les peuples.
Exactement. Parce que maintenant, on est asphyxié des deux côtés. C'est donc une pompe à fric, en quelque sorte, ici, ces tunnels.
Et donc, là, est-ce que ça vous paraît à l'image d'une certaine Europe qui, au départ, était faite pour rapprocher les peuples entre eux dans l'après-guerre, pour éviter une nouvelle guerre, et qui, finalement, on a le sentiment, un souci de rentabilité?
Oui, exactement, parce que c'est véritablement uniquement la recherche du profit. On ne tient plus compte du tout de ce que les populations ont besoin d'avoir.
France Inter.
L'autre grosse information de la soirée, c'est la suite de ce terrible incendie au milieu du tunnel du Mont-Blanc entre la France et l'Italie. Le bilan officiel de l'incendie est toujours de 5 morts et un disparu, mais on pense que 15 personnes au moins auraient pu rester bloquées dans leur véhicule à l'intérieur du tunnel. Et 24 heures après le début de l'incendie, les pompiers français ne sont toujours pas parvenus, à l'heure où nous parlons, à atteindre la zone de l'accident.
Évidemment, ce qui s'est passé dans le tunnel du Fréjus a renvoyé à cette catastrophe du Mont-Blanc de 1999. Et évidemment, c'est des tragédies épouvantables, mais qui se limitent pas, évidemment, on s'en doute, à de simples questions de sécurité. On évoque, la course délirante, imbécile, mortelle, mortifère au profit. Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'on transporte dans ces foutus camions? Pourquoi autant de camions? Dans le sens franco-italien, c'est 9000 camions par jour qui franchissent la frontière. C'est un délire total, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? François Ruffin est allé faire les courses et est allé voir Philippe Mühlstein.
Alors là, je suis allé faire mes courses avant de vous rencontrer. J'ai acheté des yaourts Danone. Là, il y a une crevette. Là, il y a une patate. Et il y a une bouteille d'eau minérale Evian. Là, je dépose sur le banc dans le square.
Alors effectivement, sur ces marchandises-là et aussi sur d'autres marchandises, on pourrait dire beaucoup de choses. Dans ce pot de yaourt que vous avez acheté, il y a 3500 kilomètres. 3500 kilomètres, pourquoi ? C'est une étude qui a été faite par des économistes très sérieux d'un institut allemand qui se trouve à Wuppertal. Ils ont vu que les différents composants de ce pot de yaourt étaient fabriqués dans différents pays en Europe et qu'au total, il avait fallu 3500 kilomètres de transport de marchandises pour fabriquer ce pot de yaourt. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le fabricant, donc ici Danone, va faire fabriquer les différents composants dans les pays où ça lui coûte le moins cher. Où ça lui coûte le moins cher en termes de matières premières et surtout où ça lui coûte le moins cher en termes de main-d'œuvre. Donc voilà, il y a 3500 kilomètres qui ont été faits dans un pot de yaourt.
Alors pour cette bouteille d'eau minérale Evian, vous savez combien il y a de kilomètres ou...
Non, je ne peux pas vous donner le même chiffre pour la bouteille d'Evian. Ce qui peut poser question à propos des eaux minérales, c'est de constater qu'en France, entre les usines d'Evian, Volvic, Contrex, Séville, Vitel et j'en passe, nous avons un excédent de production d'eau minérale par rapport aux besoins nationaux, nous exportons. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est que nous importons aussi de l'eau minérale, notamment en provenance d'Écosse. Donc toujours à grand renfort de transport et donc de pollution. C'est ça qu'il ne faut pas oublier derrière.
Donc cette patate, vous avez des histoires de patates également ?
Vous savez que les Allemands cultivent beaucoup de pommes de terre en Allemagne. Et il y a un gros vendeur de pommes de terre tout épluchées, tout empaquetées allemand, qui vend essentiellement sur le marché national allemand. Mais les pommes de terre sont récoltées en Allemagne, sont envoyées dans le sud de l'Italie, là où la main d'œuvre est très peu chère, donc avec un transport en camion sur 1000 ou 1500 kilomètres. Et là, elles sont épluchées, nettoyées, et elles remontent en Allemagne, de nouveau transport en camion, 1500 kilomètres, donc où elles seront conditionnées au goût allemand et vendues sur le marché allemand.
Donc dans une patate allemande, il y a 3000 kilomètres.
Dans les patates de ce producteur, de ce vendeur de patates tout épluchées, oui, il y a 3000 kilomètres.
Alors, dernier aliment présent ici, c'est une crevette. Vous avez également des histoires de crevettes ?
On pêche beaucoup de crevettes en mer du Nord, mais les crevettes, les consommateurs aiment bien qu'elles soient toutes épluchées. Et alors les crevettes danoises, eh bien, elles traversent le Danemark, elles traversent l'Allemagne, la Belgique, elles traversent toute la France, elles traversent l'Espagne et elles vont jusqu'au Maroc. Et là, elles seront dépiautées, décortiquées et ensuite, elles seront retransportées de nouveau au Danemark, d'où elles repartiront pour aller vers les marchés de consommation européens.
Donc elles font le Danemark, elles sont pêchées au Danemark, elles sont dépiautées en Maroc, renvoyées au Danemark pour être renvoyées à nouveau sur les différents marchés. Donc là, ça fait largement plus de 3000 kilomètres.
Oui, tout à fait. C'est un périple assez extraordinaire.
Alors, ce qui est intéressant également, c'est que ces marchandises que j'ai donc achetées à Carrefour, elles sont mises à la fin dans un sac plastique. Sur le sac plastique, donc il y a un symbole de Carrefour et il y a marqué NF Environnement. Ce sac répond aux exigences de la marque NF Environnement, le label écologique.
Retour à la manif et sentiment des d'autres camionneurs, notamment de camionneurs étrangers, italiens, au guichet de la poste de Doulaire. Est-ce vraiment la faute de l'Europe ?
Alors le chauffeur arrêté a ouvert sa fenêtre et discute en italien avec une manifestante.
C'est plus que les machines. Vuole dire quoi, elle? Il dit que ça ne sert à rien de faire questo casino, comme ils disent en italien.
Ça veut dire quoi, questo casino?
Bazar. Ce bazar, ça ne sert absolument à rien. Parce que lundi matin, si on a besoin de salade, qui va les livrer? C'est eux qui les livrent.
Le monsieur livre des salades?
Non, c'est une idée générale.
Il livre quoi, le monsieur?
Non, le sang, il ne le sait pas lui-même.
Problème européen, parce que da qua passe toute l'Europe.
Donc là, il dit que c'est toute l'Europe. Hein.
Ah oui, qui passe là. Le camion passe de tous les pays. Si vous regardez les immatriculations, vous verrez qu'il y en a de toute l'Europe.
Contre le peuple, voilà. Tous, ils sont contre
les le gouvernements
peuple.
Sont tous contre le peuple. Parce qu'effectivement, c'était pour réunir, c'était une question d'amitié, mais c'est devenu un business,
inévitablement. Il n'y a pas le gouvernement, non? n'y a pas le gouvernement, préfète. Il n'y a pas le préfète ici.
Vous pensez que les autorités françaises devraient s'engager? Elles devraient être aux côtés de la population quasiment?
C'est ça qu'il dit le monsieur. Il dit que par exemple le préfet devrait être là, avec nous, et que nous on ne sert à rien, quoi.
Il n'y a plus de travail. En France, il n'y a plus de travail, non? En Italie, il n'y a plus de travail.
Vous avez eu des difficultés pour l'emploi?
Molte difficoltà. Ma molte, molte difficoltà. Moi, je suis un padroncino. Padroncino. Il camion era mio.
Ah, il est un petit patron. Il était à lui. Il a dû vendre. Il a dû vendre. Parce qu'il n'arrivait plus à... Et voilà, il est obligé de faire le chauffeur. Avant, il était patron, un petit patron. Il a dû vendre son camion. Et maintenant, il travaille chez un entrepreneur. Il est chauffeur. Il est devenu chauffeur de patron. Il est devenu chauffeur, voilà.
Et pourquoi ça n'a pas marché?
Par la concurrence européenne de l'Est.
Par la concurrence de l'Est, voilà.
En France, en Italie, à l'infini, les petits patrons.
Les petits patrons, il
n'y
en a plus beaucoup.
Parce qu'ils n'ont plus le travail, les petits patrons. Parce qu'il bisogna pagarli. Hai capito? Toutes les votations en France. En France.
Là, vous parlez du référendum. Le référendum.
Un référendum en Hollande. Dis non. Se lo fanno in Italia, et non.
Vous dites s'il y avait eu.
Non. Non, comment dit-il en Allemagne?
Nein.
Nein.
Voilà l'Europe. Voilà l'Europe. Hein. C'est un chauffeur italien qui dit nein en allemand. Alors on se dit, oh là là, il est xénophobe. Il n'est pas généreux. Il devrait accepter de partager avec les habitants des pays de l'Europe, de l'Europe élargie. Quel manque de générosité. À limite xénophobe, ce chauffeur. J'exagère à peine sur la façon dont ce nom a été, on le sait, qualifié. Alors bon, on voit les écolos d'un côté, les travailleurs de l'autre. Qu'en pense quelqu'un comme Gilbert, qui est camionneur lui aussi, qui est routier et qui est cégétiste et qui donne un point de vue, je vais pas dire intermédiaire, mais qui enrichit un petit peu quand même le dialogue.
Donc là, on se trouve à Chambéry avec Gilbert, Stéphane et Antoine. Chambéry, c'est dans le bas de la vallée. Qu'est-ce que vous livrez en Italie?
Beaucoup de bobines de papier, principalement d'ailleurs des bobines de papier.
Vous revenez à vide?
Non. Nous, on charge, ça peut être du papier aussi en palette. Des bobines de papier aussi, du plastique. C'est-à-dire que on fabrique des bobines en Italie et des transporteurs italiens, voire nous, on ramène des bobines en France. Alors, on comprend pas, quoi. Alors que c'est les bobines qui font le même grammage, le même poids, là. Il y a même une usine qui est à côté de chez nous, là, dans la banlieue de Limoges, et qui prend exclusivement ses bobines en Italie, alors qu'elle a une usine juste à côté de chez elle. Elle a une usine qui est à 10 km, elle prend de la marchandise qui arrive de pratiquement 800 km. C'est ça qui est dommage. Donc ça fait un trafic poids lourd qui devrait pas avoir lieu si c'était fait, s'il prenait de la marchandise juste à côté.
Pardon, Antoine?
Oui, en fait, on fait du transport de bois. On a du bois ici qu'on emmène en Italie. Puis les Italiens, pareil, nous renvoient du bois aussi. Donc, je dirais, on a un échange de bois. Alors, peut-être que les qualités ne sont pas les mêmes, mais on pourrait largement, peut-être, éviter ce type de transport. Ce qui rend aujourd'hui le transport inutile possible, c'est en fait que le coût du transport est très faible. Et il a été encore affaibli dernièrement par le fait que les chauffeurs routiers, ils vont avoir leur temps de travail qui va passer à 56 heures par semaine. Donc, on affaiblit le coût du transport. Et de fait, après, on peut... J'irais largement faire des transports inutiles, ça coûte rien le transport.
Et pour quelle raison il a décidé ça de Robien?
On a voulu mettre l'ensemble des chauffeurs français, même ceux qui ne font pas d'international, au même niveau en gros que les gens des pays de l'Est. Et c'est ça qui est anormal aujourd'hui.
Et vous Gilbert, vous gagnez combien?
Environ pour 200 heures. Nous on est rémunéré pour 197,20 précises. 1300 en net, ouais, on va dire 1300.
Donc vous gagnez à peu près 8500 francs par mois.
Voilà. Mais pour 200 heures de travail. 200 heures de travail.
Donc avec 50 heures hebdomadaires, grosso modo, hein, un peu moins de 50 heures hebdomadaires, vous êtes à 8500 francs pour du transport international.
Alors qu'on a quand même 40 tonnes qui nous poussent derrière, on nous demande d'énormes responsabilités et on n'est pas payé pour ces responsabilités-là, quoi. Il y a une très pression, une forte pression du patronat.
forte pression du patronat, mais quelle est la pression qui s'exerce sur le patronat? Eh bien, on va aller voir le directeur général des transports, Jean-Claude Mermet. Oui, vous avez vu ces camions sur les routes qui s'appellent Jean-Claude Mermet. Je n'ai rien à voir avec cette entreprise de transport. Mais quand même, c'est celle que François Ruffin a choisie dans la région pour avoir le point de vue du directeur général de cette entreprise qui est à Morna, près de Cluses, en Haute-Savoie.
J'ai rencontré quelques camionneurs qui me disaient que parfois ils avaient le sentiment de faire des transports un peu inutiles.
Alors, on peut toujours éviter des flux. Le gros problème est ce que l'on voit aujourd'hui dans l'économie européenne et dans l'économie mondiale. Pourquoi payer cher quelque chose chez nous si on peut l'avoir moins cher ailleurs? C'est d'ailleurs ce qui fait que les gens se délocalisent. Comprenez bien que si les gens vont acheter du papier en Italie, c'est parce qu'ils l'ont moins cher qu'en France, c'est clair. Et même coût de transport compris, c'est comme ça. Le gros problème, encore une fois, si à ce moment-là, on veut des parts de marché, garder des parts de marché à l'exportation, on est bien obligé de se déplacer. Et on ne peut pas faire de l'économie intramuros. La France ne peut pas vivre reclus sur elle-même. Hein. Et d'ailleurs, il y a une grosse bêtise qui a été faite avec cette histoire du nom, parce que je trouve que c'est se replier sur soi-même. Ça ressemble à rien, quoi. Je veux dire, c'est pas sérieux, ce genre de truc. Aujourd'hui, on veut de l'Europe, on veut une Europe unie, une Europe qui fonctionne. Eh bien, moi, je crois que c'est la même chose pour tout. Donc, je crois que c'est des combats d'arrière-garde, mais qu'on arrête de ne plus vouloir de camions, de ne plus vouloir de voitures, de ne plus vouloir de pollution. Je crois que c'est malheureusement, un mal nécessaire. Aujourd'hui, rien ne se fait qui ne soit transporté. C'est comme ça.
Alors, vous apercevez quelle solution vous verriez?
Moi, je pense qu'il faut faire des vraies voies de circulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux tunnels que nous avons pour traverser les Alpes sont des tunnels qui sont pas assez suffisamment larges. Et on devrait avoir des doubles voies. Voilà. Et si on met deux voies dans chaque sens, on va sécuriser beaucoup mieux les choses. Par contre, on appelle de nos voeux depuis longtemps la possibilité de mettre 44 tonnes dans les camions, ce qui nous permettrait effectivement d'en mettre un petit peu plus et d'avoir moins de véhicules sur les routes.
Donc, comme solution, vous entrevoyez surtout un doublement des tunnels et un passage à 44 tonnes afin d'améliorer, d'utiliser moins de camions.
Un passage de 40 à 44 tonnes. Sachez qu'aujourd'hui, un camion qui part le soir à 20h de Haute-Savoie est à 5h du matin à Paris, prêt à livrer sa marchandise. Que fait-on avec le train? Eh bien, on n'y arrivera pas.
Est-ce que pour tous les produits, c'est pas toujours la salade fraîche qu'on livre non plus?
Non, c'est donc, pas est-ce que pour... la salade fraîche, mais vous...
C'est pas toujours du reblochon non plus de Haute-Savoie.
Alors, par contre, sachez qu'il n'y a pas que dans la salade et dans le reblochon qu'on demande des produits, qu'il y a des produits là, rapidement livrés, bien au contraire, puisque le just-in-time, qu'on appelle le juste-à-temps en français, c'est bel et bien, je fabrique, je livre dans la foulée, et je vends ma voiture, voilà.
Le just in time, donc c'est le juste à temps, c'est-à-dire finalement c'est une manière de réduire les stocks, donc de réduire les coûts.
Et par là même de réduire les temps entre la production et la vente. Si vous mettez 48 heures pour monter à Paris, eh bien il faut que les gens restockent. À ce moment-là, il faut prendre des directives au niveau France et au niveau européen et ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça marche comme ça, pour que les choses elles bougent. Voilà, tout simplement. Et moi, je pense que aujourd'hui, le fer ne peut pas se battre contre la route. C'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation et que les choses avancent de plus en plus vite. Et plus on veut aller vite, plus on aura besoin de choses rapides.
Dans l'augmentation du trafic routier, finalement, il y a plusieurs lois économiques qui se conjuguent. Il y a le fait que d'abord, il y a une libéralisation des marchés, une ouverture des marchés, donc ça circule beaucoup plus entre les pays.
Tout à fait.
Et ensuite, il y a une certaine forme de sous-traitance en Roumanie, où on fait sous-traiter en Italie, pour ensuite les ramener la marchandise manufacturée. Et ensuite, il y a troisième cause, c'est le juste à temps.
Tout à fait, exactement.
Eh oui, plus on veut aller vite, plus on aura besoin de choses rapides. Quand on entend ce monsieur Claude Dallière, on se dit que le plus grand visionnaire n'était sans doute pas Karl Marx, n'était pas Einstein, n'était pas Freud, pas même Alain Minc, mais c'était monsieur Hulot. Just in time, c'est du Tati, c'est du Hulot, c'est jour de fête. La tournée à l'américaine, ah ben bon Dieu, la tournée à l'américaine, il avait vu juste, et c'est exactement l'histoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plus on va aller vite, plus on aura besoin de choses rapides. Veut-on aller si vite que ça, d'ailleurs? Veut-on aller si vite que ça? Une étude a montré, vous savez, les magasins de photos qui vous proposent les photos tirées en une heure ou en 24 heures, etc. Et bon, les clients ne profitent pas du tout de ce tirage en une heure et en 24 heures. Il n'y a que 30% des clients qui reviennent au bout de 24 heures pile poil pour rechercher leurs photos. Les autres viennent au bout de 2 jours, 3 jours. Il n'y a pas le feu. Sauf, effectivement, sous le tunnel de Fréjus et auparavant sous le tunnel du Mont-Blanc et dans la tête de certains qui pensent qu'il faut aller de plus en plus vite et bouger de plus en plus vite. C'est le bougisme, c'est le délire du mouvement. Et voilà pourquoi, consciemment ou pas, les manifestants devant le Mont-Blanc scandaient la formule « on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas ». Ce qui nous ramène à l'an 01. Souvenez-vous, GB avait raison, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. C'est ce qu'on fait en écoutant Philippe Mühlstein qui nous parle des conséquences sur l'environnement.
Si tout ça c'est possible, c'est finalement parce que le coût du transport routier n'est pas extrêmement élevé. Sinon, on baladerait pas les marchandises comme ça à travers l'Europe.
Il est clair que si le coût du transport était plus élevé, une entreprise aurait moins intérêt à délocaliser, puisque certes, elle diminuerait ses coûts salariaux en allant installer son usine dans un pays où les salaires sont moindres, où les garanties sociales sont moindres, mais elle y perdrait parce qu'elle elle paierait les transports. Et en fait, le dumping social dans les transports renforce en réalité le dumping social dans les entreprises, le dumping social au niveau des salaires, au niveau des garanties sociales, d'où les 3500 km dans le pot de yaourt.
Quand on discute des transports, on a le sentiment que c'est presque la clé de voûte de la mondialisation.
Alors, clé de voûte, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, les transports sont vraiment au centre de la mondialisation. C'est-à-dire que les délocalisations d'entreprises, la recherche des plus bas coûts de main-d'œuvre, des plus bas coûts de protection de l'environnement dans tous les pays du monde, ne peut avoir lieu que parce que il existe une offre de transport surabondante et une offre de transport peu chère. Si, effectivement, le transport était payé à son juste prix, et quand je veux dire juste prix, je veux dire à la fois un prix qui permette une rémunération et des conditions sociales correctes au personnel des transports, et en même temps un prix qui prenne en compte les conséquences environnementales des transports, c'est-à-dire les coûts de la pollution, les coûts du bruit, les coûts de l'occupation d'espace. À ce moment-là, le prix des transports serait plus élevé et la politique de délocalisation tous azimuts serait en partie mise en échec, effectivement.
Il y a un dumping social, et pour vous, est-ce qu'il y a également un dumping environnemental ?
Le dumping environnemental dans les transports, il est lié au fait que les modes de transport ne payent pas leurs coûts environnementaux, ne payent pas pour la pollution qu'ils occasionnent. Et ces effets-là, que les économistes appellent les effets externes, ne rentrent pas en ligne de compte dans le prix des transports. C'est donc une forme de dumping environnemental, si vous voulez. Les conséquences sont absolument considérables. Je prendrai qu'un seul exemple. Les transports en France, c'est le secteur le plus émetteur de gaz carbonique. Contrairement à ce que l'on pense généralement, plus que l'industrie. Les transports émettent environ 28% des gaz à effet de serre émis en France. Et ce qui est plus grave encore, c'est que c'est le secteur dont les émissions croissent le plus vite. Depuis 1990, les émissions des transports ont cru de 23 ou 24%. Le problème le plus crucial pour l'effet de serre, c'est un problème de transport.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Parce que moi, là, je peux dire que je souhaite qu'on utilise moins les transports. En même temps, en faisant ce reportage, j'ai peut-être fait 1000 km avec une voiture diesel en plus.
La première question à se poser, c'est quel est le besoin ? Est-ce que nous ne serions pas prêts à payer notre pot de yaourt un petit peu plus cher et savoir que ce pot de yaourt, au lieu d'avoir occasionné 3500 km de transport par poids lourd, bah, il a été produit localement ou dans un rayon de 100 km. Donc ce que je proposerais, c'est de réfléchir à une relocalisation de l'économie pour faire en sorte de minimiser les transports.
Alors comment faire cette relocalisation alors qu'on a des espaces économiques qui sont de plus en plus élargis et que les taxes douanières sont amenées à disparaître, en tout cas au sein de l'Union européenne ?
Alors, nous vivons pour le moment dans une économie de marché. Je pense qu'une solution aujourd'hui dans une économie capitaliste pour essayer de diminuer les transports, ce serait de prendre en compte les coûts environnementaux, c'est-à-dire de valoriser les coûts environnementaux à un niveau suffisant et d'introduire ces coûts dans les prix des transports et dans les prix de ce que l'on achète. C'est ce que les économistes appellent internaliser les effets externes.
Donc établir par exemple, comme en Suisse, une taxe concernant le nombre de kilomètres parcourus par les camions.
Par tous les modes de transport, je dirais. Hein. Tous les modes de transport ont des nuisances environnementales, donc tous doivent intégrer dans leur prix les nuisances environnementales qu'ils provoquent. Mais si tous le font, on comprend bien que les modes de transport qui sont les moins nuisants auront un avantage, puisque les taxes qu'ils auront à payer au titre de l'environnement seront moins élevées. Donc du coup, ça incitera à utiliser des modes de transport moins nuisants.
Alors, comme solution finalement envisagée pour limiter ce trafic, la première solution, c'est de dire on taxe de manière à produire plus près du lieu où c'est vendu. La deuxième solution qui est envisagée, c'est celle du fret ferroviaire.
Le président de la République, après l'accident du tunnel du Mont-Blanc de 1999, avait dit on va mettre le paquet sur le fret ferroviaire. On n'en a rien fait en réalité. Mais non seulement on n'en a rien fait, mais la politique qui est menée actuellement est une politique qui consiste au contraire à faire baisser le trafic transporté par le rail pour le transférer sur la route.
C'est-à-dire que depuis quelques années encore, le trafic sur le rail non seulement n'augmente pas mais baisse, tandis que le trafic routier augmente.
Absolument. La SNCF se trouve avec un secteur fret ferroviaire qui est très déficitaire. Elle veut se gérer comme une entreprise privée. Elle dit, moi, je ne peux pas garder un trafic déficitaire. Donc, que fait-elle? Elle se débarrasse de ses clients qui lui coûtent trop d'argent et le trafic correspondant qui était transporté par le rail passe sur la route.
Le point de départ de ce reportage, ça a été ce qui est arrivé au tunnel du Fréjus.
On retrouve bien là la question du dumping social. Hein. Pourquoi c'était des chauffeurs slovènes qui venaient faire du transport entre la France et l'Italie? Ben, c'est tout simplement parce qu'ils étaient certainement payés beaucoup moins cher que l'auraient été des chauffeurs français ou italiens ou allemands. Et puis, je crois, mais là je ne connais que ce que j'ai lu dans la presse, que un des camions transportait des pneus. Et qu'un autre camion transportait, je crois, de la colle.
Les pneus venaient des Pays-Bas pour être livrés en Italie.
Ben, je crois que c'est un exemple de plus qui corrobore les quelques exemples que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons une véritable folie des transports. Et je pense que la première question à se poser, c'est avons-nous besoin de tous ces transports? La réponse est visiblement négative.
C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Christine, Laure, Jean-Paul, Jean-Pierre, Antoine, Stéphane, Gilbert, Patrick, Yvonne, Massimo, messieurs Claude Dallieré et Philippe Mulstein. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis.
Je suis Toto, je suis Total, totalement perdu sans étoile, comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Nos capitaux, le capital mène le bal. Nos capitaux, le capitaine perd les pédales. Monnaie, monnaie, Nemo, Nemo, le maître mot c'est la monnaie. Capitaine Nemo, où tu nous mènes, tu nous malmènes. Menu monnaie, tu nos menus, on s'évertue à tout gagner. On s'entretue pour te garder, on se dépaisse pour du papier. On se met en pièce pour de l'espèce, monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie,
monnaie. À la technique aujourd'hui, Clément Léotard et Ronan Mahé, réalisation Yann Chouquet et Koyen Guyen, assisté de Charlotte Perry et chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.